tous. On en dit bienvenue dans la maison du Seigneur. Voilà, il ne faut surtout pas oublier que nous sommes dans un local. Et ce local est rempli de la gloire et de la présence de Dieu. Et le Seigneur Jésus, comme nous l'avons entendu, est au milieu de nous. Et il est bon de se rappeler ou de savoir où Jésus se tient, le miracle s'accomplit. Mais le miracle ne peut s'accomplir que dans la mesure où nous croyons, premièrement, que Jésus est avec nous, et que secondement, il a la puissance et le pouvoir de bénir et d'honorer nos demandes, parce que si on croit qu'il est là, le Seigneur a dit « Demandez et vous recevrez ». Mais Dieu, dans son amour, peut aussi nous prouver qu'il peut agir autrement, à savoir qu'il est capable de bénir alors que nous sommes venus simplement dans une assistance pour écouter, pour voir, un petit peut-être, comme on dit des fois, voir comment cela se passait. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, va, par son Saint-Esprit, nous convaincre que dans ce lieu-là, il y a la bénédiction et la victoire, et apporter à ceux qui sont dans le besoin le secours. Et ainsi, il démontre la vérité de sa parole, de sa puissance, et pour nous aujourd'hui, la vérité et l'efficacité du nom du Seigneur Jésus. Alors, pour cela, nous allons essayer un petit peu de l'expliquer au travers d'un texte biblique, car vous savez que le Seigneur Jésus est toujours le même. Si vous ne le savez pas, vous le découvrez aujourd'hui. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est croire à cette parole que Jésus est toujours le même et que ce Jésus-là veut vous accompagner dans votre vie de chaque jour pour vous permettre d'arriver un jour dans cette promesse qu'il a donnée à tous les hommes, manifestée sur la croix du calvaire, à savoir la vie éternelle. Et la vie éternelle ne peut s'obtenir que dans la mesure où l'on entend la parole, où l'on croit en Jésus-Christ et où l'on croit qu'il est le Tout-Puissant pour transformer toutes les situations et par-dessus tout, pardonner aux pécheurs pour leur ouvrir le chemin du ciel. Alors on va lire un texte pour ceux qui ont avec eux la parole de Dieu dans Luc au chapitre 5 et verset 17. Luc chapitre 5 et verset 17, on va lire là quelques versets. Cela sera le support de ce que le Seigneur a placé sur le cœur pour chacun d'entre nous en cet après-midi. Donc Luc étant le troisième évangile du Nouveau Testament, vous avez dû trouver. Un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut leur raisonnement, puis prit la parole et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Rempli de crainte, il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. » Gloire à Dieu. J'aime cette conclusion. « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Et pourquoi pas que cet aujourd'hui qui était dans la présence de Jésus soit le vôtre aujourd'hui. Par une délivrance que vous avez peut-être ou certainement besoin. La question qu'on peut se poser en regardant ce texte, c'est celle-ci. Pourquoi la guérison de ce paralytique? Ou encore, comment la guérison de ce paralytique a-t-elle eu lieu? Alors, il y a quelques points que je voudrais très rapidement souligner avec vous. Parce que, en fait, Jésus se tenait dans un lieu, comme nous cet après-midi. Le Seigneur Jésus, il est invisible, mais gloire à Dieu, il est au milieu de nous. Je me rappelle, et permettez-moi de vous le dire, peut-être l'ai-je déjà dit, alors pardonnez-moi, mais lorsque mes parents se sont convertis, il y a bien sûr quelques années maintenant, dans la salle à manger, il y avait un écriteau qui avait été placé par mon papa, où il était écrit « Dieu invisible, mais présent, dans la maison ». Et on avait ça devant les yeux tous les jours. Dieu est invisible, mais il est présent. Présent pour tous ceux qui croient en lui. Présent pour tous ceux qui veulent écouter sa voix. Présent pour tous ceux qui acceptent de se tourner vers lui. Alléluia. En tout cas, il y a une chose certaine cet après-midi, c'est que Jésus est présent au milieu de nous. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Et là où Jésus est, attendons-nous à de grandes bénédictions. Alors, Jésus était dans un lieu et il enseignait. Il enseignait à des hommes qui avaient une certaine connaissance. Et puis, la salle était remplie, voilà. Et moi, pour moi, cet après-midi, je souhaite qu'un jour la salle soit pleine, débordante, et qu'il y ait des mêmes expériences. Peut-être que votre pasteur ne serait pas trop content si le toit se démonte. Mais peut-être qu'à l'arrivée, il serait content quand même. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de monde et Jésus était là. Et en fait, tout le monde savait que dans cette maison, dans ce lieu, il y avait la présence de Jésus. Et dans la ville où Jésus se tenait, il y avait aussi un autre cas qui est à souligner, c'est le cas de ce paralytique. Et ce paralytique, bien sûr, il ne pouvait pas se déplacer, vous l'avez parfaitement compris, parce que vous avez lu comme moi ou entendu qu'il était sur un lit, malade, paralysé. Donc pour lui, impossible de se déplacer. Mais voilà qu'il a des amis qui sont venus, des gens qui sont passés, qui le connaissaient, qui connaissaient son cas, qui connaissaient pour avoir entendu parler de Jésus-Christ, parce que la renommée de Jésus était répandue partout où il allait. On savait que Jésus était là. Quand il arrivait, on savait qu'il arrivait. Jésus était connu. Et ces hommes ou ces amis qui ont vu ce paralytique dans cet état-là, eh bien, ils ont dit, ben, nous, on va le prendre et on va l'amener à Jésus. Et leur pensée, c'était de le déposer, vous l'avez lu comme moi, de le déposer aux pieds de Jésus. Pas seulement de le mettre en sa présence, mais de le mettre, on va dire, sous ses yeux, à ses pieds. Alors, ils se sont armés de courage. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas que le courage de prendre le lit, de porter ce paralytique, ça ne devait pas être facile. Mais quand ils sont arrivés devant la maison, impossible d'entrer parce qu'il y avait trop de monde. Et là, je note, par exemple, un point positif. Le point positif, c'est que ces hommes qui ont amené Jésus juste devant la maison ne se sont pas découragés. Ils n'ont pas dit « c'est plein, c'est même archi plein, toutes les issues sont bouchées, fenêtres et portes, on ne peut pas rentrer, alors ben écoute-nous, hein, on est désolé, on a fait ce qu'on a pu. Hein. » Ils auraient pu dire ça, ce paralytique. Mais regarde, tout est bouché là, on ne peut plus rentrer. Hein. Notre intention, c'était de t'amener devant Jésus, mais on ne peut pas. Mais ces hommes-là ont manifesté un point important, pas seulement le courage, mais la persévérance. Et, entre guillemets, je dirais aussi l'audace. Car si vous avez bien prêté attention, ils se sont dit, loin de se décourager, eh bien, on va monter sur le toit et on va passer par le toit. Alors, peut-être pour nous aussi, on ne comprend peut-être pas pourquoi par le toit, parce qu'on a des toits en verre renversé. Mais là, dans le pays de Jésus-Christ, tous les toits sont plats. Et à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle un escalier, parce que ces toits sont des toits terrasses. Donc, ce qui fait qu'on peut passer par les escaliers et arriver jusque sur le toit. Mais alors, réfléchissons deux secondes, c'est bien, il monte sur le toit, mais une fois sur le toit, comment descendre l'homme au pied de Jésus? Comment vont-il faire? Puisque c'est bouché partout, ils ne vont quand même pas démonter le toit. Si, ils vont le faire. Il faut oser. Non? Il faut avoir du courage. Non? Il faut aller au bout de ses idées. Nous sommes venus pour mettre cet homme au pied de Jésus, nous n'en repartirons, non pas par la force des baïonnettes, mais par la foi avec la victoire. Vous n'êtes pas d'accord? Alors ces hommes se sont armés de courage, et j'aurais voulu être présent dans la salle, moi, pour voir ces gens qui... Tiens, on entend du bruit. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais regardez, il commence à avoir un trou dans le toit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça a dû commencer à parler dans la salle, là. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Oh, une dalle est enlevée, mais qu'est-ce qui se passe? Puis d'un seul coup, ils ont vu des têtes qui apparaissaient. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le trou, il était juste au-dessus du Seigneur Jésus. Quand vous lisez ce texte, il faut bien essayer de s'imaginer ce qui se passa. Alors, juste là, certainement que dans la foule, il y en a... C'est pas possible, mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Mais ils ont abîmé le toit, mais pourquoi ils ont fait ça? Vous croyez que les quatre hommes ont pensé à toutes ces choses qu'eux, ils ont pensé? Ils n'ont pas pensé, nous, on va démolir le toit. Qu'importe ce que les gens pensaient, qu'importe ce que les gens diraient, eux, ils ont persévéré jusqu'au bout, mettre leur ami, le paralytique, au pied de Jésus. C'est formidable, non? Cet après-midi, je ne sais pas comment vous êtes arrivés jusqu'ici, mais merci Seigneur pour vous qui êtes là. Il y a là des gens qui aiment la maison du Seigneur et qui sont venus. Il y a peut-être des gens qui sont là pour la première fois, invités par des amis, et vous avez bien fait, c'est comme pour le texte que nous venons de lire. Il y en a peut-être qui sont venus comme ça, par curiosité, eh bien, vous avez bien fait, parce que, comme j'aime à le dire, et comme des collègues le disent aussi, si vous êtes rentré là cet après-midi, dans ce lieu, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu vous y a amené. Et Dieu vous a attiré, parce que le Saint-Esprit attire à lui ceux qui doivent être sauvés, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais il vous a mené au but que Dieu voulait, c'est-à-dire être là cet après-midi dans la présence de Jésus. Il y a pas mal de monde, c'est vrai, mais j'aime à le redire aussi cet après-midi. Vous êtes avant tout dans la présence de Jésus. Il est là. Et là où est Jésus, là, le miracle peut s'accomplir. Amen. Alors ces hommes, ils ne se sont pas arrêtés là, parce que finalement, ils n'ont pas fait un petit trou. Qu'est-ce que vous en pensez? S'ils avaient fait un petit trou, eh bien, j'aurais pas voulu être à la place du paralytique. Parce qu'il serait tombé verticalement. Il fallait donc mettre cet homme au pied de Jésus, mais horizontalement. Donc ils ont dû faire un trou assez gros pour que le lit passe. Parce que si je dis le lit passe, c'est que vous avez vu qu'en fin de texte, il nous est dit que cet homme prit son lit. Donc il est descendu avec le lit ou au pied de Jésus. Savez-vous que la persévérance que nous portons à l'intérêt de la parole de Dieu et à ce que Dieu nous enseigne, nous amène toujours à la victoire. Amen. Et si aujourd'hui vous tournez vos regards vers le Seigneur, vous ne serez pas déçus, ni aujourd'hui, ni dans les jours à venir, mais votre fidélité et votre persévérance à vivre avec Jésus-Christ vous ouvrira, nous ouvrirons les portes du ciel. Alléluia. La persévérance. Dieu nous appelle à vivre une vie de persévérance. Pas seulement une vie de rencontre. Il y a la vie de rencontre, il y a l'acceptation de Jésus-Christ, il y a faire confiance en Jésus-Christ, mais ensuite persévérer jusqu'au bout pour obtenir la vie éternelle. Mais le cheminement avec lequel nous allons, sur lequel plutôt nous allons progresser dans notre persévérance, eh bien nous amènera toujours vers la vie éternelle. Alléluia. Alors cet homme est descendu au pied de Jésus. Il y a là le désir d'amener cet homme dans la présence de Jésus. Il y a leur persévérance pour qu'ils puissent obtenir la guérison. Par contre, tout à l'heure, je vous disais simplement ceci, que toute la foule qui était là, ils ont discuté, il y a eu même des gens qui ont parlé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Il y a toujours des gens qui parlent, hein, quand on essaye de s'approcher de Jésus. Hein? Non? Oui, oui, oui. Ben oui. Des fois, il y a des gens à qui vous expliquez que vous êtes allé à une réunion, que vous avez entendu l'évangile, que vous avez reçu un message qui a percé votre cœur, qui a touché votre cœur. Et les gens vous écoutent et au bout d'un moment, ils disent, tu vas là-bas, chez ces fous, toi aussi. Moi, je suis content, moi. Qu'on me dise que je suis fou. Je suis fou pour Dieu. Ne me regardez pas comme ça. Hein. C'est un exemple. Hein. J'ai toute mon intelligence. Il faut que je fasse attention parce que mon épouse est là. Hein. Hein, je ne suis pas encore sénile. Hein. Non, ça va. Hein. Elle me dit que ça va. Alors, c'est bon. non, non. Quand on se tourne vers le Seigneur, j'aime ce texte, on est rayonnant de joie. Amen. Alléluia. Parce qu'on sait que le Seigneur est avec nous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Quand on a donné sa vie au Seigneur, quand on marche avec le Seigneur, quand on reçoit le Seigneur Jésus dans son cœur, normalement, rien ne nous arrête pour aller toujours avec lui. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Vous pourrez essayer de nous abaisser, de nous mettre plus bas contre terre. Ça ne fait rien. Nous continuerons notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Il y aura toujours des gens pour vous décourager, ne vous en faites pas. Surtout au départ, il y en a qui vont venir, mais ça va pas, qu'est-ce que tu vas faire tous les dimanches? Vous savez, un petit témoignage comme ça en passant, quand j'étais encore sur des lieux de travail, alors il y avait quelque chose qui se passait, c'est que tout le monde prenait son week-end, et puis le dimanche matin, on avait du temps, enfin on prenait le temps en tout cas, pour dire, enfin pas... La première question, c'était « Qu'est-ce que tu as fait dimanche ?» Oui, ça vous est jamais arrivé au travail ? Arrivé, alors, qu'est-ce que tu as fait dimanche ? Ah, chacun, moi je suis sorti, moi je suis allé là. Puis, fatalement, c'est arrivé sur M. Asquette. « Qu'est-ce que tu as fait dimanche ?» Ben, moi, dimanche matin, je suis allé au culte. « Ah bon ? Croyant, moi je suis croyant, je suis allé au culte. Ah bon, c'est bien. Et bon, et qu'est-ce que tu as fait alors dimanche après-midi ? Ah, dimanche après-midi ? Je suis allé à la réunion. Quelle réunion ? Ben, la réunion évangélique. Ah bon ? Et tu as fait ça ? Oui, toute la journée, j'étais content. Ça, c'était la première fois. Le deuxième lundi. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait dimanche ? Ça arrive chez M. Asquette. Qu'est-ce que tu as fait ? Moi ? J'étais au culte. Et l'après-midi, à la réunion. Ben, au bout de trois fois, il ne me demandait plus rien. Il connaissait où j'allais. Il savait. Rue des Lys à Avignon. Vous voyez, je me rappelle encore. Ah oui, oui, oui. On est heureux de vivre avec Jésus. Qu'importe ce que peuvent dire les autres, qui vous traitent de fou, qui c'est pas ta place, c'est pour les vieux. On en entend de toutes les couleurs. Mais celui qui donne son cœur au Seigneur, il est heureux. Celui qui vit avec le Seigneur Jésus voit sa gloire se manifester. Alléluia. Les gens ont parlé, ils ont parlé même sur Jésus, ils ont interrogé Jésus, ils ne comprenaient rien, ils voulaient discuter un peu de théologie. Mais qu'est-ce qu'on a à faire ? Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Cet homme-là, on ne nous a pas dit qu'il était même croyant. Il a été là, permettez-moi le terme, parachuté au pied de Jésus. Tous ces hommes qui parlaient, là, ils conversaient, ils ont regardé en haut, ils ont, comme je disais tout à l'heure, ils ont vu des têtes. Ben, vous savez, c'était des gens qui avaient des yeux et qui étaient aveugles. Ouais. Parce que tous ces gens-là n'ont pas vu ce que Jésus a vu. Ces gens-là, ils ont vu le toit qui s'enlevait, ils ont vu de la poussière qui tombait, ils ont vu des têtes qui apparaissaient, ils ont vu le ciel, mais ils n'ont pas vu le principal. Et c'est ce que Jésus veut voir chez vous cet après-midi. Et il espère voir cela comme ce qu'il a vu dans le cœur de ses quatre compagnons et de ce paralytique. Qu'est-ce qu'il a-t-il vu de particulier ? Vous rappelez le texte ? Qu'est-ce que j'ai vu, Jésus ? A vu de particulier. Jésus, je viens de l'entendre, et c'est la réponse, Jésus a vu leur foi. Et quand on a la foi en Jésus-Christ, tout devient possible. Alléluia. Si tu crois, je répète, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras le miracle s'accomplir. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu agir à ton égard. Et quelle que soit la situation par laquelle tu passes aujourd'hui, si tu crois qu'il n'y a pas de solution humaine, il y a toujours la solution divine, car rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Les deux se rencontrent. L'amour de Dieu et la foi de celui ou de celle qui a des problèmes. Quand les deux se rencontrent, le miracle s'accomplit. Mais il faut être sincère de cœur. On ne fait pas ça parce qu'il faut faire comme les autres. On fait ça parce que l'on croit de tout ton cœur. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut-être cet après-midi a besoin du secours de Dieu. En rentrant dans ce lieu, il ne savait pas exactement, mais Dieu lui dit, je te connais, je sais qui tu es, je connais tes pensées, je connais tes idées, je connais ton problème, je connais tes difficultés, je connais tout de toi, car rien n'est caché à mes yeux, mais j'ai la solution pour toi. Et la solution, je te la donnerai qu'à partir du moment où tu croiras en mon nom, en mon amour, au don de Jésus-Christ à la croix, si tu crois, alors tu verras et tu goûteras à ma gloire et à ma puissance. Alléluia. Cet homme a été guéri. Mais guéri pourquoi ? Parce que Jésus a vu sa foi et la foi de ses compagnons. Il leur dira, mais il y a quand même quelque chose d'important encore que je voudrais souligner. Cet homme a été déposé pour qu'il obtienne la guérison de sa maladie, de sa paralysie. Alléluia. Et puis, quand je vois au verset 20, voyant leur foi, Jésus dit à cet homme. Alors, si on arrêtait là le texte, l'exemple, on pourrait se dire, très simplement, Jésus va lui dire, ta foi, comme il le dira à plusieurs autres exemples bibliques, à certaines personnes, ta foi t'a guéri. Oui ou non ? On descend ce paralytique pour qu'il soit guéri. Logiquement, voyant la foi, je dis bien logiquement, entre guillemets, ta foi t'a guéri. Eh bien, Jésus, lui, s'y prend autrement là. Il lui dit, ta foi t'a pardonné. Tes péchés te sont pardonnés. Ce qui nous prouve une chose importante, c'est que Jésus a le pouvoir de guérir les malades, et quelle que soit la maladie. Mais il est au-dessus de ces choses qui sont pour tous importantes, la guérison physique. Jésus va lui parler de la guérison de son âme. Ça, c'est très important. Parce que je peux avoir la guérison de mon âme et puis dire, eh bien, maintenant je suis guéri, je continue ma route. Mais si mon âme n'est pas guérie, ou en fait, si je n'obtiens pas le pardon des péchés que j'ai pu commettre dans ma vie, alors mon âme sera perdue. Perdue pour l'éternité. Vous allez me dire peut-être, mais moi j'ai rien fait de mal, hein, dans toute ma vie. J'ai rien fait de mal. Ben, j'espère. Enfin, j'en suis même convaincu que vous n'avez rien fait de mal. Mais vous savez que la Bible, c'est la vérité. Vous le saviez? Bon, pour le cas où quelqu'un ne le saurait pas, la Bible mentionne ceci, c'est que nous sommes de par nature des natures pécheresses. C'est-à-dire que lorsque je viens dans le monde, je viens déjà avec la nature du péché. Vous voyez? Bien sûr, quand on est bébé, tout ça, on ne fait pas de péché, c'est compréhensible ça. Mais... bon, je vais prendre un exemple un petit peu fort, vous me permettez? Très simple, mais fort. J'ai eu des enfants, vous avez eu des enfants, vous avez connu des enfants, vous êtes en compagnie d'enfants, mais moi je vais vous poser une simple question. À partir de quel âge un enfant peut mentir? Comment? Très tôt, très tôt. À 9 mois, non. Quoique s'il est gourmand, il va crier fort pour qu'on lui donne une ration de plus de bébé, mais on ne sait pas s'il ment ou si c'est la vérité. Mais vers les 2 ans, là, 3 ans, ça commence à arriver. Alors là, j'ai une autre question. Je suis curieux, hein, cet après-midi. Vous avez tous eu des enfants, vous avez dû remarquer comme moi, en tant que père et grand-père et arrière-grand-père, que les petits, ils mentent vite. Hein. Mais j'ai une question à vous poser. Lequel d'entre vous, parents, grands-parents, a appris à son fils ou petit-fils, fille ou petite-fille à mentir? Levez la main! Moi, je ne peux pas la lever. Je ne leur ai pas appris à mentir. Non. De temps en temps, je leur dis, comme on dit dans le midi, des galijades. Mais après, je dis, non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas appris à mes enfants à mentir. Mais je les ai surpris à mentir. Alors là, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas grave. Ou bien, attendez, avant de dire, c'est pas grave, faites bien attention, parce que plus ils sont petits, plus c'est mignon, oui, c'est gentil, c'est mignon. Mais plus on grandit, plus on est des gros. Ouais. Oui, mais attendez la suite. Parce que quand je suis pris en flagrant délit de quelque chose, je mens. Non? Bon, ne me regardez pas comme ça. Parce que, bon, dans certains cas, et des fois, j'ai un petit peu usé du mensonge. Par exemple, quand j'étais au collège, quand j'étais à l'école communale, avec les instituteurs. Moi, j'ai eu des instituteurs, mes amis, aujourd'hui, ils seraient révoqués. Hein. La craie dans la figure, le truc à nettoyer, qui volait au travers, la règle qui se cassait sur la main. Ce qui fait que quand des fois je parlais avec l'autre à côté de moi et que d'un seul coup le instituteur se retournait et me disait « C'est toi, Squat ?»« Ah non, monsieur, c'est lui, hein, pas moi. » On a tous fait pareil. Mais on se pardonne facilement ces choses. Il y a des messages, plus on grandit, plus on en fait des gros. Et puis j'ai remarqué aussi que quand on est surpris, alors on ment. Mais quand les gens insistent, comment vais-je m'en sortir? Mais j'en fais un plus gros. Non? Oui? Alors j'arrête là mes exemples pour vous dire tout simplement qu'il est écrit dans la Bible que les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce qui veut dire, pour revenir au départ, que nous sommes tous des pécheurs, à moins de s'être réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous? Parce que c'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être réconciliés avec Jésus. C'est lui seul qui peut guérir mon âme. Et vous savez, quand quelqu'un ment, il ne faut pas se faire plus fort que les autres, là. Parce que le mensonge, il nous suit toute notre vie. Et on n'en dort plus. Suivant le mensonge que l'on dit pour couvrir telle ou telle faute qu'on a commise. On perd sa paix, on perd sa joie, on devient colérique, on ne supporte plus rien, parce que le péché du mensonge nous rogne intérieurement. Mais il n'y a pas que le péché de mensonge, le péché nous ronge intérieurement. Celui qui trompe sa femme ou trompe son mari, il ne peut pas vivre tranquille, c'est faux s'il vous dit le contraire, c'est un menteur. Nous sommes dans un monde de menteurs, mais celui qui vient à Jésus-Christ confesse son péché. Et celui qui confesse son péché en Jésus-Christ, Dieu le pardonne. Il enlève le péché. Jésus est mort pour cela. Quand on lit la crucifixion, il est écrit que Jésus sur la croix a pris toutes nos iniquités, tous nos péchés, et par son sang nous sommes purifiés de tout péché. Alléluia! Et Jésus est là pour faire le miracle ce soir, dans vos vies, dans vos cœurs, vous changer, vous transformer. Si vous vous sentez concerné par ce message, le Seigneur est là pour te guérir, pas seulement guérir ton corps, mais guérir ton âme, faire de toi un héritier de la vie éternelle. Mais il ne pourra le faire que si tu te reconnais pécheur devant le Seigneur. Et lui, il te réconciliera avec Dieu son Père. Et il t'ouvrira les portes du ciel si tu persévères jusqu'au bout. Alléluia. Le Seigneur a dit à cet homme, va, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as cru que je pouvais te délivrer de tout ton cœur, alors va, tes péchés te sont pardonnés. J'ai l'impression que là, le gars paralytique, il a un poids qui s'est enlevé. Parce que je suis sûr que plusieurs ont réalisé cela le jour où ils ont dit, Seigneur, je suis un pécheur, pardonne mes péchés. Sincèrement dit, d'un seul coup, on sent un poids qui s'élève, qui s'en va. Il y a le miracle qui s'accomplit. On devient une nouvelle création. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait quand il vient dans un cœur. Il transforme le cœur, il transforme la vie, il transforme le comportement, il transforme le langage, il transforme nos idées morales, il transforme tout, il balaye tout et il remet tout à neuf pour nous donner une vie nouvelle, non plus seule, mais une vie nouvelle en Jésus-Christ, en son nom et en l'amour de Dieu. Alléluia. Alors bien sûr, quelqu'un pourrait me dire, et j'arrive à la conclusion, quelqu'un pourrait me dire cet après-midi, « Ouais, mais alors attendez, cet homme, vous êtes bien gentil, monsieur le pasteur, mais vous dites, ta foi t'a sauvé, c'est vrai, bon, il est pardonné, il a maintenant en lui cette certitude d'être transformé, il a la vie éternelle, comme vous l'avez expliqué, mais alors, eh oui, mais alors quoi ? Eh bien, il est toujours malade, eh bien non, parce que Jésus va jusqu'au bout, il va discuter avec les gens qui le taquinent d'ailleurs sur ce sujet. » Et il va dire à ce paralytique par le verset 24e, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, aujourd'hui encore il pardonne les péchés, il a le pouvoir de pardonner les péchés, il a le pouvoir de te transformer intérieurement et te donner l'assurance du salut. » Mais va-t-il arrêter là sa parole ? Va-t-il arrêter là sa bénédiction pour cet homme, comme pour vous ? Alors il va continuer à dire, et il va dire, il y a sur la terre de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Instantanément, cet homme est guéri sur la parole de Jésus-Christ. Et le Seigneur vient d'expliquer à toute cette foule devant lui qu'il avait reçu de son Père tout pouvoir. Le pouvoir de pardonner les péchés et le pouvoir de guérir tous les malades. En un instant, les contradicteurs, ils ont eu la bouche fermée. Ce n'est même plus la peine de discuter avec Jésus, on est perdant. Un petit conseil, ne discutez jamais la parole de Dieu. Ne vous y opposez jamais. Parce que le perdant, ce n'est pas Dieu, c'est vous. C'est moi. J'accepte ce que Dieu dit en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Je reçois le message par Jésus-Christ de la part de Dieu. Et je vis pour Dieu. Alléluia. Alors, je ne le conteste pas, mais je crois à ce qu'il dit. Et si je crois, je vois, j'expérimente, je suis heureux. Parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a un petit cœur qu'on chantait, on chante que très rarement maintenant. C'est celui-ci, « Je suis heureux parce que j'ai gagné au loto ».